Nous allons maintenant écouter le dernier exposé de cette session, l'exposé de Hervé Delingette, qui est ingénieur et docteur de l'École centrale. Alors, c'est une coïncidence, il est de la même promo que Jean-François Mangin, et je l'ai appris juste avant cette session. Il a étudié à l'Institut de robotique de l'Université de Carnegie Mellon aux États-Unis, puis au laboratoire de recherche de NTT au Japon, avant de rejoindre INRIA Sophie Antipolis, où il est aujourd'hui directeur de recherche au sein de l'équipe Asclepios. De 2005 à 2010, il a coordonné l'action INRIA d'envergure nationale CardioSense 3D sur la modélisation cardiaque. Et en 2012, il a présidé le comité de programme de la conférence internationale MICAI, qui est la première conférence en imagerie médicale computationnelle. Son principal domaine de recherche concerne la segmentation d'images à partir de modèles explicites de forme, ainsi que la modélisation biophysique personnalisée à partir d'images médicales. Il est impliqué depuis de nombreuses années dans le développement de la simulation médicale interactive pour la formation. Et Hervé Delingette a publié sur tous ces sujets de nombreux articles influents dans des revues internationales prestigieuses.
Merci Nicolas. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc effectivement, on va quitter en fait le monde fascinant de la morphométrie cérébrale pour revenir en fait à l'algorithmie de la segmentation des images médicales que Nicolas Ayache a abordé dans son cours. Et donc en fait, comme vous le savez, en fait, il y a des milliers d'images qui sont acquises, des images médicales qui sont acquises tous les jours dans les hôpitaux et qui font l'objet d'une inspection visuelle par les praticiens hospitaliers. Et donc cette inspection visuelle, en général, prend quelques minutes. Elle permet d'établir un diagnostic ou effectuer une planification de la stratégie opératoire, mais ne permet pas une quantification en fait, de la forme ou du volume des structures anatomiques ou pathologiques. Donc pour cela, pour arriver à cette quantification qui permet d'aller vers une médecine plus personnalisée et aussi plus prédictive, il faut aller plus loin que la simple inspection visuelle, il faut aller vers le contourage précis des structures dans les images. Alors pour cela, en fait, c'est un travail qui est extrêmement fastidieux si il devait être fait à la main par un praticien. Et donc, c'est une tâche qui requiert l'utilisation d'un ordinateur. Et donc, c'est ce qu'on appelle la segmentation d'images computationnelle. Alors, donc, l'objet de ma présentation, ça va être d'explorer différents algorithmes de segmentation d'images de manière complémentaire à celle présentée précédemment, et de faire ressortir en fait les indices visuels utilisés pour effectivement faire ressortir, pour contourer en fait ces structures visibles à l'image. Donc je vais prendre pour illustrer cela deux exemples un peu extrêmes. Le premier concerne la segmentation ici de cette structure que vous voyez au centre, qui est en fait les poumons dans une image scanner du thorax. Et vous comprenez bien que pour pouvoir isoler cette structure dans l'image, il suffit en fait de comparer les intensités entre la région sombre, correspondant donc à l'air présent dans les poumons, et la région grise adjacente. Donc ici, l'information d'intensité est l'information préponderante pour pouvoir effectuer cette segmentation. Et de manière en fait complémentaire, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'extrait d'une image du thorax, une image scanner du thorax, pour laquelle il ne semble pas qu'il y ait de frontières visibles présentes dans cet extrait d'image. Pourtant, en fait, il y a une frontière qui est visible ici et qui peut sembler en fait difficile à interpréter, basée uniquement sur l'intensité. Donc, pour pouvoir interpréter cela, il faut prendre un peu de recul et inspecter ce qui se passe au niveau de l'organe entier. Ici, il s'agit donc du foie. Et on comprend bien, donc, pour pouvoir ici isoler le foie dans cette image, il ne suffit pas de regarder uniquement l'intensité, mais de prendre en compte l'information de forme, qui permet ici de distinguer donc, le foie des muscles intercostaux qui ont une intensité similaire. Donc, j'espère vous avoir convaincu que les deux piliers de la segmentation d'image, c'est donc l'apparence et la forme. Et donc, on va explorer de manière non exhaustive, en fait, des algorithmes de traitement d'image qui vont faire intervenir de manière plus ou moins importante, à divers degrés, en fait, cette information d'intensité et de forme. Donc, cette barre ici qui apparaît à l'écran va être un peu le guide, le fil d'Ariane en fait, de mon exposé. Et on va avoir à divers degrés en fait, plusieurs algorithmes de traitement d'image. Et on va commencer par ceux qui ne font intervenir uniquement l'intensité, donc qui apparaissent ici à gauche, et pour lesquels aucune forme caractéristique n'est utilisée pour pouvoir isoler les structures dans l'image. Et donc ce sont des techniques qui ont déjà été présentées dans le cours précédent, notamment les techniques de classification d'intensité ou des techniques d'apprentissage dans lesquelles chaque voxel est considéré indépendamment les uns des autres. Alors on va maintenant progresser sur l'information, l'information contextuelle. On va considérer une situation intermédiaire dans laquelle on va utiliser l'information des voxels, mais aussi une information de connexité et de régularité. Donc c'est le cas, par exemple, d'algorithmes de type morphologie mathématique ou encore de type de champ de Markov. Alors pour pouvoir, donc je vais un peu rentrer dans le détail de ces algorithmes. Et pour le faire, en fait, je vais vous proposer une grille de lecture qui va utiliser deux critères orthogonaux. Donc, tout d'abord, on va essayer de regarder les algorithmes qui utilisent des représentations basées sur l'image, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de représenter les régions, et donc à chaque voxel, on va lui associer une étiquette. Et de manière duale, on peut s'intéresser aussi aux représentations qui s'intéressent aux frontières entre ces régions. Alors, une autre grille de lecture des différents algorithmes, c'est de regarder de manière orthogonale par la formulation discrète, c'est-à-dire quelle grandeur on essaie d'optimiser, si ce sont des grandeurs qui sont à caractère en fait, discrète, c'est-à-dire à valeur dans des entiers naturels, ou alors des formulations continues qui sont à valeur en fait, dans l'espace des réels. Alors, donc on va cheminer, en fait, on va passer à travers en revue en fait, certains algorithmes. On va commencer par l'algorithme de coupure de graphe. C'est un algorithme en fait, qui constitue une avancée majeure dans la segmentation d'images dans les années 2000. En fait, cet algorithme a permis de résoudre de manière exacte et de manière efficace des problèmes qui, auparavant, c'est-à-dire quelques années avant, nécessitaient en fait, des grandes puissances de calcul et qui n'autorisaient que une approximation, en fait, une optimisation partielle. Alors, on va ensuite regarder de manière beaucoup plus rapide des algorithmes qui sont basés sur des lignes de niveau ou encore des contours ou des surfaces actives. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ces algorithmes de coupure de graphe. Donc, on va donc introduire cette notion de graphe. Donc, ce que l'on connaît, donc, c'est une image. Une image, en fait, c'est une grille structurée de voxels. Et donc, on va pouvoir déterminer naturellement à partir de cette grille structurée, un graphe. Alors pour cela, on va commencer par associer à chacun des voxels de l'image une probabilité, la probabilité que le voxel YI appartienne à la classe d'étiquette L. Et on va aussi associer à deux voxels adjacents, on va donc associer la probabilité d'appartenir à deux étiquettes L et M. Alors maintenant, on va donc, une fois que l'on a notre image, on va pouvoir en déduire un graphe dual. Et on va considérer ici donc, la formulation des champs de Markov pour lesquels on peut montrer que la segmentation la plus probable, c'est-à-dire celle qui va maximiser la probabilité jointe, correspond en fait à la minimisation d'une énergie qui est la somme de deux termes. Donc le premier terme ici correspond en fait, est attaché à chaque voxel et correspond en fait, au coût que le voxel YI, donc le coût pour que le voxel YI appartienne à la classe L. Et ensuite, donc le deuxième terme, c'est le terme ici psi 2 qui appartient dans qui est attaché en fait à deux voxels voisins et qui correspond au coût pour lesquels les deux voxels YI et YJ ont une étiquette L et M. Alors en fait, ce coût, il va être de telle sorte qu'il sera nul si les deux étiquettes sont les mêmes. Et il sera un coût strictement positif si les deux étiquettes sont différentes. Et ainsi, donc, on va, grâce à ce terme, on va pouvoir faire en sorte que les voxels d'une même région seront connexes, seront voisins les uns des autres. Alors, donc, une avancée a été faite en 1989 par trois chercheurs de l'université de Durham, en Angleterre, et qui ont montré que résoudre, minimiser l'équation précédente revient à minimiser une coupure de graphe, qui est une approche en fait combinatoire. Alors en fait, il y a des hypothèses pour cela, pour qu'il y ait cette équivalence entre minimiser l'énergie et minimiser une coupure de graphe. Donc cette hypothèse, c'est que les étiquettes appartiennent à uniquement deux classes, donc la variable YI appartient à une variable binaire, que les termes unaires psi 1 soient strictement positifs, que les termes donc, qui sont attachés aux arêtes soient de termes de nature quadratique, et enfin qu'il existe une sorte de règle d'inégalité triangulaire à respecter qu'on appelle une contrainte submodulaire. Et donc, avec ces hypothèses, il a pu montrer donc, qu'on peut minimiser cette énergie exactement avec un minimum global en résolvant un problème de minimisation de coupure de graphe. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un problème de coupure de graphe. Donc, on va considérer ici un exemple simple avec une image ici en deux dimensions avec des pixels en niveau de gris. Et à droite, vous avez ici le graphe dual associé que j'ai déjà mentionné. Donc pour pouvoir résoudre le problème de segmentation, on a déjà donc défini un coût de séparation des voxels qui est défini sur donc les arêtes qui joignent les deux voxels. Et on va ensuite rajouter deux nouveaux nœuds. Chaque nœud correspond à chacune des deux étiquettes que l'on cherche à attribuer. Donc un nœud qu'on appelle un nœud source et un nœud qu'on appelle un puits. Alors on va ensuite rajouter des arêtes supplémentaires dans lesquelles on va rajouter un coût qui est le coût d'appartenance à l'étiquette 0 et le coût d'appartenance à l'étiquette 1. Alors si l'utilisateur souhaite, il peut en fait imposer des étiquettes à quelques voxels. Donc par exemple, ici on va dire que les nœuds en bas à droite et le nœud en bas à gauche appartiennent à l'étiquette rouge et à l'étiquette verte. Donc pour cela, il suffit de modifier les valeurs associées aux deux arêtes ici montrées en gras et de les mettre à des valeurs très élevées. Donc, ensuite, on va définir ce qu'est une coupure de graphe. Donc, une coupure de graphe, c'est simplement un ensemble de voxels dont la suppression crée plusieurs composantes connexes. Et le coût du graphe, c'est simplement la somme des coûts associés à chacune des arêtes. Alors, de plus, il y a une propriété extrêmement intéressante, c'est qu'on peut montrer que déterminer la coupure de graphe minimale, c'est équivalent à déterminer les arêtes qui vont saturer le flux qui passerait donc d'une source à un puits. Donc si on fait une analogie hydraulique dans laquelle les arêtes correspondent à des tuyaux, et donc la valeur associée aux arêtes correspondrait au diamètre du tuyau, donc on va chercher à déterminer les arêtes pour lesquelles on a une saturation du flux qui traverse ces arêtes. Alors donc pour effectuer cela, il y a un algorithme combinatoire, qu'on appelle un algorithme de coupure de graphe, et qui permet ainsi de pouvoir déterminer automatiquement l'appartenance pour chaque voxel à une étiquette, comme on le voit ici avec la classe respectivement rouge et la classe verte. Alors voici ici un exemple sur une image médicale. Vous avez ici une image IRM du cœur, dans lequel l'utilisateur a utilisé un pinceau dans lequel il a attribué une couleur bleue à des voxels du myocarde et une couleur rouge à des voxels de l'endocarde. Et en utilisant cet algorithme de coupure de graphe, avec un temps extrêmement faible, on est capable de déterminer ainsi la frontière entre le myocarde et l'endocarde. Et ainsi, on peut voir que les pixels similaires sont dans un même segment. Alors, les algorithmes de coupure de graphe, ils ont été proposés depuis les années 50, notamment par l'algorithme de Ford et Fulkerson. Et ensuite, ils ont été optimisés pour des graphes liés à des images en 2004 par Boykov et Kolmogorov. Alors maintenant, si on cherche non pas à étiqueter en deux classes, mais en plusieurs classes, le problème ne peut plus être résolu de manière exacte. Mais si on utilise l'algorithme d'expansion alpha, on peut montrer qu'on a une borne entre l'optimum local et l'optimum global, donc ce qui est un algorithme des propriétés extrêmement intéressantes. Vous avez ici un exemple ici, de segmentation en quatre classes du poumon. Alors il existe d'autres algorithmes d'optimisation que ceux des coupures de graphes qui ont été développés plus récemment. Et donc certains, ceux qui sont mentionnés ici, permettent une optimisation quasi optimale des fonctionnels et en des temps extrêmement intéressants. Donc il s'agit souvent des algorithmes développés dans un cadre bayésien, mais qui ont été étendus pour prendre en compte ici des graphes quelconques. Et également aussi d'autres méthodes utilisant des variables continues et pas seulement binaires, comme par exemple les algorithmes de coupure de graphes normalisés, les algorithmes utilisant en fait des notions de distance géodésique, l'algorithme du marcheur aléatoire, ou encore des algorithmes de ligne de partage des eaux généralisés, qui en plus ont proposé un cadre plus général pour pouvoir intégrer les algorithmes précédemment mentionnés. Alors maintenant, donc, on va, je pense que j'ai couvert donc, ici les principes de la sémantation d'image dans lequel on va utiliser une hypothèse de connexité, de voisinage entre les voxels. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, on va utiliser une hypothèse de régularité. C'est-à-dire on veut en faire en sorte que la frontière entre deux régions voisines soit, par exemple, la plus lisse possible, la plus régulière possible. Donc voici, par exemple, dans le cas du foie, ça paraît une hypothèse raisonnable, puisque vous pouvez voir ici donc, l'anatomie ici, la forme relativement régulière de la capsule de Gleason qui entoure le foie. Alors donc l'hypothèse qui est la plus couramment effectuée, c'est une hypothèse qui consiste à minimiser la longueur ou la surface des frontières entre les structures segmentées. Donc il y a l'algorithme historique proposé par Mumford et Shah en 1989, également les algorithmes de contours géodésiques, des contours actifs géodésiques formulés par Cazelès en 1997. Vous pouvez voir ici à l'écran des exemples de ces segmentations donc, qui permettent là encore de minimiser une longueur, mais c'est une longueur définie dans une métrique qui dépend du gradient de l'image. Alors, pour pouvoir utiliser ces méthodes, il faut utiliser une représentation un peu différente de celle que l'on a vue jusqu'à présent. Ce sont des représentations par courbes de niveau. Des courbes de niveau, ce sont des fonctions implicites qui correspondent au passage par zéro d'une fonction scalaire, comme vous pouvez le voir ici, et dont l'évolution correspond à l'application d'une équation dérivée partielle qui est guidée par la fonction f qui guide donc, la vitesse d'évolution du contour. Maintenant, si on veut aller plus loin et pas seulement s'intéresser à minimiser la longueur entre deux régions adjacentes, on peut aller donc plus loin et s'intéresser donc à minimiser la courbure de l'interface entre deux régions. Donc pour cela, il faut utiliser une représentation qui est différente puisque on rencontre souvent des problèmes numériques lorsqu'on veut faire cela avec des courbes de niveau. Donc il faut utiliser cette fois-ci une représentation qui est explicite. Donc par exemple ici, on représente explicitement la forme de la tête en deux dimensions dans cette image IRM. Donc, c'est-à-dire on part un ensemble de points, une ligne polygonale ou un ensemble de courbes splinées. Donc maintenant, donc cet exemple ici montre la différence entre minimiser la longueur si je peux activer la vidéo. Ah, c'est pas l'air de vouloir s'activer. Ah pardon, d'accord. Donc, on voit ici la différence entre les deux approches. Dans le cas où on minimise la longueur des contours, on voit que ça crée évidemment un biais de rétrécissement, et ce biais peut avoir un impact sur la qualité de la segmentation. Par contre, quand on minimise cette courbure, il y a absolument cette absence de biais. Voilà. Donc, en fait, on a fait ici le tour extrêmement rapide et de manière non exhaustive. Donc des méthodes de segmentation qu'on pourrait appeler assez bas niveau, puisqu'en fait on utilise des hypothèses extrêmement simplistes de connexité, voire de régularité des frontières. Maintenant, si on veut aller plus loin, donc je vais poursuivre un peu mon exploration des algorithmes de segmentation, on va utiliser cette notion de forme. Donc cette notion de forme, l'exemple, c'est par exemple les méthodes que Nicolas Ayash aussi a présentées dans son cours, qui utilisent des atlas. Alors, maintenant, donc, il existe aussi une autre approche qui, celle-ci, utilise des surfaces déformables, des modèles déformables. Donc, ces modèles déformables, elles modélisent la frontière entre deux régions et elle va ajuster, optimiser, si vous voulez, la forme de cette frontière pour venir s'appuyer sur les contours visibles de la surface, du contour apparent de la structure. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la formulation par modèle déformable. Donc c'est celle que je vais développer par la suite. Mais avant d'aller plus loin, on va un peu rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'une forme d'une structure. Alors, la forme d'une structure, elle peut se définir de plusieurs manières. La première manière, on peut la définir de manière extrinsèque ou encore de manière intégrale en disant qu'une forme, c'est une instance, un objet avec lequel on va lui appliquer des transformations de l'espace de plongement de cette forme. Donc, un exemple de ces groupes de transformations, c'est les transformations rigides. Donc, je vais vous montrer ici un exemple très simple. Vous avez donc ici la forme de la tête, dans laquelle on va lui appliquer de manière successive des transformations rigides. Vous allez voir donc, successivement une translation, une rotation de la forme. Donc, en fait, on va dire que deux objets ont la même forme s'il existe une transformation rigide qui permet de faire une correspondance entre l'objet A et l'objet B. Donc, voilà ici une définition relativement classique de la forme. Mais on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une instance, on peut aussi essayer d'utiliser une moyenne de l'objet. Donc, par exemple, ici, vous avez un foie au centre, qui correspond en fait à une forme moyenne d'une douzaine de foies qui ont été extraits à partir de l'imagerie scanner donc de l'abdomen. Et donc, en considérant non seulement donc, le modèle moyen du foie, mais aussi la variabilité autour de cette moyenne, et en lui attachant un groupe de transformation rigide, par exemple, on va développer ainsi un espace de forme qui va être très utile pour pouvoir contraindre les résultats des segmentations. Donc il y a nombre d'algorithmes de segmentation d'images qui utilisent une contrainte de forme, qui utilisent cet espace donc constitué d'une forme moyenne, d'une variabilité et d'un groupe de transformation rigide. Alors une autre façon de définir la forme, c'est de manière ici intrinsèque, c'est d'utiliser des notions différentielles. Donc par exemple ici pour une surface donc de codimension 1, en fait, on va utiliser des éléments différentiels d'ordre 1, ce qu'on appelle la métrique, et d'ordre 2, qu'on appelle la courbure. Donc, pour vous donner des exemples, si on considère le cas des courbes planes dans un domaine continu, la métrique va correspondre à ce qu'on appelle l'abscisse curviligne, S, qui va être une paramétrisation globale du contour. Et on va aussi définir une courbure. Et donc, dans le cas présent, en fait, on va pouvoir définir une fonction entre la courbure et l'abscisse curviligne. Donc vous avez ici un exemple d'une courbe plane qui est ici donc qui peut être représentée de manière intrinsèque par la fonction entre la courbure et l'abscisse curviligne. Il se trouve ici que ce sont une courbe qui est particulière qu'on appelle une spirale de Cornu et qui est caractérisée par une relation linéaire entre la courbure et l'abscisse curviligne. Alors pour les courbes planes dans lesquelles c'est relativement sympathique. Pour les surfaces tridimensionnelles, il faut aussi utiliser une information de métrique et de courbure qu'on appelle la première et la seconde forme fondamentale. Alors la différence, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de paramétrisation globale des surfaces, et donc on ne peut pas avoir une relation fonctionnelle simple entre on va dire une variable qui caractérise la métrique et la courbure. Alors maintenant, on va s'intéresser au cas discret, et donc au cas discret pour des courbes. Alors dans le cas discret pour des courbes, c'est ce qu'on appelle des courbes polygonales, c'est-à-dire une succession donc, de points dans le plan. Et en fait, on peut caractériser là aussi par deux grandeurs la forme de la structure de l'objet. En fait, on va utiliser tout d'abord une information qu'on appelle métrique, qui va contrôler la distance relative d'un point par rapport à ses deux voisins, comme ici. Donc là, ici, on change uniquement le paramètre métrique. Et de manière orthogonale, il y a pour pouvoir caractériser la courbure, on va utiliser l'angle fait donc par les deux segments adjacents. Et cet angle va contrôler la hauteur du point par rapport au segment formé par ces deux voisins. Voilà, donc là encore, on a une formulation relativement simple et on peut caractériser de manière intrinsèque la forme de ces courbes polygonales. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que maintenant, on peut utiliser cette formulation intrinsèque pour représenter des surfaces tridimensionnelles discrètes? Alors pour répondre à cette question, il faut qu'on prenne d'abord un peu de recul et que l'on regarde quels sont les types de représentations géométriques possibles pour des modèles déformables, des surfaces déformables. Donc, je vais vous montrer ici une taxonomie, là encore, non exhaustive. Mais on peut d'abord distinguer des modèles qui sont définis dans l'espace continu avec des représentations explicites, comme par exemple des courbes spleen ou des maillages par éléments finis, ou encore des représentations implicites comme les courbes de niveau que l'on a vues précédemment. Maintenant, si on bascule dans le monde du discret, il est constitué principalement de maillages, dans lequel on a par exemple des maillages triangulaires ou encore des maillages simplex. Et on va s'intéresser en fait à cette dernière présentation, donc des maillages simplex que j'ai introduit lors de ma thèse, et pour lequel en fait c'est une représentation qui autorise une représentation intrinsèque de la forme pour des surfaces tridimensionnelles. Alors donc vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un maillage simplex? Donc vous avez ici peut-être le premier maillage simplex que vous voyez de votre vie. Encore que on verra que c'est pas nécessairement vrai. Donc c'est un maillage simplex du foie. qui est caractérisée par une topologie particulière. Donc si vous regardez bien, pour chaque sommet, vous pouvez voir qu'il y a trois sommets adjacents. Okay, donc ça, c'est vrai pour chacun des sommets visibles à l'écran. Et d'autre part, ce maillage simplex est constitué d'un certain nombre de faces. Alors ces faces, ce sont des lignes polygonales, et ce sont des faces qui ne sont pas nécessairement planes. Elles peuvent être incurvées. Alors une autre caractéristique de ces maillages simplex, c'est que si vous regardez bien aussi, chaque sommet est entouré de trois faces. Et donc si on considère, si on associe à chacune de ces faces un sommet, on peut construire ainsi une triangulation duale du maillage simplex. Donc vous voyez ici à gauche un exemple de cette dualité en termes de graphe, ce qu'on appelle une dualité topologique entre un maillage simplex et une triangulation. Et voici ici la triangulation duale du maillage simplex. Alors une dernière propriété intéressante des maillages simplex, c'est le fait qu'elles représentent ce qu'on appelle des variétés topologiques. Et donc, par exemple, ici, on a un exemple d'un maillage dont chaque sommet a trois voisins, mais pour lequel on ne représente pas une variété topologique. Alors, je disais que ce n'est pas forcément le premier maillage simplex que vous avez rencontré dans votre vie, puisqu'il y a un objet qui est très couramment rencontré, un ballon de football, par exemple, qui est un exemple d'un maillage simplex constitué de 12 pentagones, un certain nombre d'hexagones. Alors, avec une note un peu plus scientifique, vous avez également des molécules une forme stable du carbone qu'on appelle les fulrènes, qui ont été découverts en 1985 par des chimistes anglais et américains. Et vous avez en fait, sur une note un peu plus artistique, vous avez les magnifiques statues d'une sculptrice italienne appelée Rabarama, et donc qui a modélisé des personnages avec des maillages simplexes et qui ont été d'ailleurs exposés pas très loin d'ici. Alors pour revenir en fait, entre les maillages simplexes et les triangulations, donc je vous ai parlé d'une dualité, mais il y a aussi donc une relation extrêmement intéressante en termes de nombre de sommets et de nombre de sommets connexes à un sommet donné et le nombre de sommets par face. Donc j'ai déjà mentionné le fait que les faces ne sont pas forcément planes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces faces peuvent être constituées de ce qu'on appelle une surface minimale, qui est de courbure moyenne nulle, alors que pour les triangulations ont des faces planes, qui sont de courbure gaussienne nulle. Et vous avez ensuite une notion intéressante en termes de courbure. Pour un maillage simplex qui est entouré de trois voisins, on peut définir une sphère qui passe par ces trois voisins, et on peut ainsi définir une courbure, qu'on appelle une courbure moyenne, associée à chaque sommet. Et associée à cette courbure, on peut définir un angle simplex qui est relié très simplement avec cette courbure. Donc maintenant, on peut ainsi donc définir une paramétrisation locale de la forme. On peut ainsi voir l'influence, ici par exemple, des paramètres métriques, donc deux paramètres métriques pour contrôler la position dans le plan tangent, et ensuite l'influence ici l'angle simplex pour pouvoir contrôler la hauteur du point sur le triangle fait par ces trois voisins. On peut ainsi utiliser donc cette notion intrinsèque de forme pour pouvoir contrôler la forme des surfaces déformables. Et on peut appliquer ainsi ces modèles déformables pour pouvoir effectuer de la segmentation d'image. Comme vous pouvez le voir ici avec l'exemple de la déformation du foie, pour pouvoir segmenter donc, une image scanner du foie, voilà, dans laquelle le foie va venir contourer les contours visibles de l'objet. Et vous pouvez ici voir un exemple sur une séquence temporelle d'images cardiaques. Ici, on prend en compte non seulement l'information de forme, mais aussi l'information de trajectoire, puisqu'on a incorporé cette notion temporelle. Alors donc voici la fin un peu de mon parcours non exhaustif des algorithmes de segmentation d'images. Donc j'aimerais terminer par des perspectives. Donc je voudrais tout d'abord mentionner le fait que la segmentation interactive comme celle que j'ai illustrée pour les coupures de graphes, je pense que c'est des approches extrêmement bien adaptées à la pratique clinique, à condition qu'elles soient en temps réel et qu'elles prennent en compte aussi la forme des structures, ce qui n'est pas actuellement le cas. Donc une deuxième perspective que je trouve extrêmement importante, c'est de quitter le monde déterministe quand on parle de segmentation d'images et d'aborder en fait une notion plutôt probabiliste. Donc voici ici, pour illustrer l'exemple d'une image IRM de la prostate qui a été segmentée par 5 experts. Et vous pouvez voir ici la variabilité des segmentations des 5 experts. Et donc, il est, à mon avis, très intéressant de pouvoir, au lieu de pouvoir estimer la segmentation la plus probable, comme le font l'ensemble des algorithmes que j'ai présentés jusqu'à présent, de s'intéresser à la famille des segmentations les plus plausibles, c'est-à-dire celles dont la probabilité est supérieure à une valeur donnée. Et enfin, donc, je voudrais mentionner évidemment l'influence majeure du big data, donc des données massives. Donc, chaque jour, des milliers d'images sont acquises, mais ne sont pas utilisées pour pouvoir construire des bases de données. Donc, je pense que ça, ce sont des choses qui vont effectivement donc, changer à l'avenir. Et je pense que le fait que l'anatomie de l'homme étant en fait, et sa variabilité étant finie, on va pouvoir, dans un avenir proche, utiliser la puissance des ordinateurs, mais aussi les avancées en algorithmie, pour pouvoir explorer et cartographier en fait, l'espace des formes et de l'apparence des structures visibles dans les images médicales. Et grâce à cette carte, on va pouvoir ainsi améliorer l'interprétation des images et aller vers donc, une quantification systématique permettant en fait, donc, une approche plus quantitative et personnalisée de la médecine. Voilà, je vous remercie.